Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, un témoignage poignant et une réflexion importante sur les transitions de genre chez les adolescents quand elles se font à l'insu des parents et quand elles conduisent à la rupture familiale. Notre invitée principale est Marie-Laure, mère célibataire qui a élevé seule sa fille Camille. Camille a entamé une transition sans en informer sa mère au départ. Aujourd'hui, les liens sont rompus. Marie-Laure vient nous raconter ce parcours et alerter sur les conséquences qu'elle observe. À ses côtés, pour enrichir le débat, Madeleine Le Pollès, que nous avons déjà reçue, du collectif Lettres Trans, et Lio Kessler, qui a effectué une transition complète avant de faire machine arrière à 32 ans. Bonjour Marie-Laure, Madeleine et Elio, et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux éditeurs.
Bonjour.
Marie-Laure, pourriez-vous nous présenter donc brièvement votre famille et votre relation avec votre fille Camille avant que tout cela ne commence ? Et comment avez-vous élevé Camille seule et quels étaient vos liens au quotidien ?
Alors, je suis une maman seule qui a élevé ses trois enfants, avec tout ce que ça implique comme difficulté, mais pas que. J'ai aussi cette fierté de voir mes garçons réussir dans la vie et ma fille, en dehors de tout cela, être une jeune fille qui est déjà dans une vie active et suit un parcours professionnel intensif. Je suis fière de dire que mes enfants sont ambitieux et courageux. Alors, ma relation avec ma fille, écoutez, c'était une relation très complice, tendre. C'est ma seule fille et mon dernier enfant, donc comme disaient mes fils souvent, tu cèdes un peu trop. C'est une petite fille intelligente, amusante, curieuse. On aimera beaucoup partager de bons moments ensemble. Et notamment quand elle grandira, qu'elle sera ado, on sera toutes les deux mordues de séries, dont une en particulier qui nous avait vraiment touchées parce qu'elle avait une devise, cette famille fictive avait une devise, c'était pour toujours et à jamais. Mmh. Et c'est resté aussi notre devise à moi et ma fille, si bien que cette devise, je l'ai même inscrite sur sa gourmette que je lui ai offert à 18 ans, Forever and Ever.
Et comment avez-vous appris justement que Camille avait entamé une transition de genre et était-ce au début, ou alors cela s'est-il révélé progressivement? Et avez-vous des indices rétrospectifs sur ce qui a pu la mener à cette décision sans vous en parler?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai inscrit Camille dans un collège, un établissement public, donc de la ville de Brest. De là, c'est vrai que quand on a fait la rentrée, j'ai trouvé que les élèves étaient très originaux, habillés d'un style assez particulier. Bon, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Sur le coup, mm-hmm. J'ai pas vu ça en mal du tout. J'avais même fait la réflexion. On voit que les choses avancent parce que moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Et de là après, les mois ont commencé, passé la scolarité. Et là, un jour, je reçois un devoir de Camille avec dans la marque. Où l'on indique le prénom et le nom de l'enfant, je vois Arthur.
D'accord.
Alors, je dis, c'est qui Arthur me dit, c'est moi. Je dis, non, c'est pas toi, non, pas du tout. Je dis, mais attends, les profs, ils cautionnent ça? Oui. Et ce que je m'aperçois par la suite, c'est que on genrait ma fille au masculin et on l'appelait Arthur. Au sein de l'établissement.
D'accord.
J'ai pu découvrir aussi par la suite qu'elle avait rencontré l'infirmière du collège avec laquelle elle a pu échanger sur sa dysphorie de genre. Mm-hmm. Et celle-ci lui avait conseillé qu'elle pouvait prendre des hormones.
Et pouvez-vous nous raconter, parce que la mission, ça passe très vite, pouvez-vous nous raconter s'il vous plaît, en détail, comment cela s'est passé. Après, je donnerai la parole à Madeleine et
D'accord. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu donc toute cette période où j'ai découvert aussi qu'elle se scarifiait, elle a fait une tentative de suicide.
Donc ça a été loin, oui.
Ouais. Les conflits étaient de plus en plus réguliers au sein de la maison. De là, par la suite, ça s'est un petit peu calmé. Elle a rencontré une fille. Elle m'a annoncé donc qu'elle était lesbienne. Bon, il n'y avait pas de problème sur ça. Elle a recommencé à se féminiser de nouveau. C'était aléatoire, en fait, dans son genre. Et donc, je pensais que Arthur était tombé aux oubliettes. Par la suite, donc, on arrive à 16 ans et demi, elle rencontre une autre jeune fille. Et là, on recommence le processus. Elle se bande les seins, elle met des binders. Donc là, je constate effectivement que là, on est reparti dans la même histoire, mais en pire cette fois-ci, parce qu'un jour, je la regarde et je vois qu'il y avait les prémices d'une barbe qui poussait. Mm-hmm. Et donc, je lui ai demandé si elle prenait des hormones. Elle m'a dit que non. J'ai fouillé sa chambre. Là, plus tard. Quelques temps plus tard, j'ai découvert qu'il y avait des flacons dont elle avait enlevé l'étiquette, que j'ai photographié, que j'ai amené ces photos donc à Madine Polès et qui m'a tout simplement dit que c'était du minoxidil, un produit que l'on met pour l'alopécie de base, d'accord. Donc pour la repousse du poil, quoi. Voilà. Et de là, évidemment, les conflits ont recommencé de nouveau. Et le 7 novembre, j'ai eu une dernière conversation avec elle en lui demandant ce qu'elle avait l'intention de faire. Elle m'a parlé de torsoplastie. Évidemment, j'ai pas validé. Donc, évidemment, c'est parti dans le conflit. Ça s'est réglé, ça s'est soldé, on va dire, par une fin de discussion rapide. Et le lendemain, elle prenait ses affaires. Et elle partait.
Madeleine, en écoutant le témoignage de Marie-Laure, comment l'idéologie du genre, selon vous et votre collectif, peut-elle influencer des jeunes comme Camille à entamer une transition sans en informer leurs parents ?
Alors déjà, faut remettre le parcours de Camille dans un certain contexte. Donc déjà celui des confinements, donc lié à la crise sanitaire, et aussi l'exposition intensive des réseaux sociaux et les jeunes étant enfermés dans leur chambre et dans le contexte du domicile étaient réellement exposés non seulement aux réseaux sociaux mais aussi aux communautés de jeux vidéo où l'idéologie LGBTQI est plutôt présente, quoi. Donc forcément ces jeunes, qu'ils soient adolescents ou même jeunes adultes, sont fortement exposés, moi, par ce que j'appelle des réponses instantanées à leur détresse par le docteur des réponses données par le docteur Google et donc les algorithmes donc qui vont ferrer la conscience de la personne qui se pose des questions. Et donc si tu te poses des questions, c'est que tu es trans, quoi. Donc c'est comme ça que ça agit. Bon, dans le cas de Marie-Laure, donc, et de sa fille Camille, il y a vraiment aussi l'aspect institutionnel. Donc, avec le rôle de l'éducation nationale aujourd'hui, qui est dévoyé et surtout qui est gangréné par l'idéologie du genre. Donc depuis déjà un petit moment, depuis les ABCD de l'égalité, donc lancés par la ministre des droits des femmes en 2013, donc Najat Vallaud-Belkacem. Voilà. Donc c'est vrai que il y a eu la circulaire Blanquer, donc le 30 septembre 2021, qui a essayé de cadrer justement l'accueil des enfants dits transgenres dans le milieu scolaire. Sauf que là, le collège lycée où va la fille de Marie-Laure déjà n'a pas respecté cette circulaire. Donc parce qu'elle a validé la transition sociale sans même l'accord des deux parents, ce qui est bien écrit sur la circulaire déjà. Donc après, je vais quand même citer le collège lycée public, parce qu'il est vraiment important que les parents ce matin comprennent. L'Arte-Loire, donc de Brest, mais aussi par exemple l'établissement Le Vauban. Donc, comment est un établissement proactif. Nous, en tant que collectif de personnes critiques de l'idéologie du genre et aussi transsexuelle, il nous a fallu que quelques clics sur le site de l'établissement pour découvrir que l'établissement lui-même, avec des partenaires, produisait des séries de vidéos. Donc, ici, notamment une vidéo intitulée Topic, qui sont des vidéos militantes hébergées sur YouTube avec un partenaire qui est l'association de télévision générale brestoise, et développée comme soi-disant outil pédagogique, mais qui est en fait propagandiste, et soutenue par la mairie de Brest avec l'implication des médiathèques et l'association transaffirmative Parlons Trans.
Je confirme, hein, je vous coupe parce que vous me les avez envoyés. Et oui, effectivement. Effectivement, oui, c'est assez surprenant, on va dire
C'est
ça
très
comme ça.
surprenant. Et alors, cette série a commencé le 16 novembre 2021, nous avons vérifié hier soir, mais elle était déjà en gestation en 2019, 2 ans auparavant. Donc, ce qui montre bien que effectivement, il fallait une circulaire Blanquer pour absolument essayer de faire un certain ménage. Mais de toute façon, la graine était déjà là. Elle était déjà dans l'éducation nationale. Alors, en allant un petit peu plus loin, en cliquant sur différents sites, on nous sommes tombés par exemple sur le BIJ, le Bureau d'information jeunesse brestois, donc qui fait lui aussi, donc qui est censé accompagner le jeune dans ses démarches d'évolution de son parcours justement d'études. Et donc, qui fait part aussi belle à l'idéologie transidentitaire. Il y a la mission locale de Brest, qui pareil en fait partie. Il y a vraiment, vous regardez les sites. Et pour revenir aux médiathèques, nous avons épluché une partie des livrets hier soir avec notre collectif. Et donc, alors, la recommandation des lectures ou de films ou de documentaires qui est proposée au public, et notamment, il y en a un qui nous a vraiment attiré l'attention, c'est celui de mai 2022, s'intitulant Images et corps, l'égalité en tout genre. Alors là, avec vraiment des exemples qui démontrent même une institution publique sous influence, et je pèse vraiment mes mots. La série de France Télévisions slash Océan, l'autoportrait d'un homme trans, Histoire d'un coming-out, la santé LGBT, sortir de l'hétérosexualité, Tomboy, ou encore Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, narrant l'histoire d'un père de famille qui s'apprête à se faire opérer de la sphère génitale pour soi-disant devenir une femme, et bien sûr, la série de télévision générale brestoise, Topic. Donc, un document participatif, hein, lié vraiment à différents lycées brestois comme l'Arthe-Loire, Pérouse, Kerrichen, Vauban, Depuy-de-l'Aume, du lycée général professionnel Jules Veslen, etc. Donc, alors, je vais apporter une dernière
Oui, parce
précision.
qu'après, je vais poser d'autres questions à l'IO.
Oui. Alors, oui. Mais c'est quelque chose que, par exemple, le Figaro avait alerté déjà le 16 décembre 2022, avec un article intitulé Genre et transidentité, une association militante intervient dans les classes dans le cadre de l'enseignement sur la laïcité. La journaliste Eugénie Boilet, donc, indiquait que le lycée Vauban de Brest supprimait des heures de cours de maths, par exemple, pour donner 2 heures à l'association Parlons Trans. Et donc parler d'idéologie du genre à la place des cours obligatoires, quoi.
Ah, d'accord. Et l'IO, alors je vais vous poser 2 longues questions. Votre parcours inclut une transition complète puis un revirement à 32 ans, hein. En entendant l'histoire de Marie-Laure et de Camille, hein, quel parallèle voyez-vous avec votre propre expérience, notamment sur les influences initiales et les regrets éventuels? Et puis, j'en profite, quelles ont été aussi les conséquences physiques et psychologiques de votre transition? Et comment avez-vous géré, hein, le retour à votre identité de femme après avoir arrêté la testostérone, je crois, en 2024? C'est pas je crois, d'ailleurs.
Oui, 2024, il me semble aussi. Oui, alors bon, bah, pour aussi rendre complémentaire ce que disait Madi, donc moi j'ai fait une transition il y a 10 ans en arrière, donc c'était pas tout à fait pareil qu'aujourd'hui. Donc on n'avait pas autant d'informations, notamment en termes de narrative, et puis on n'avait pas non plus beaucoup de cas, donc on était vraiment assez isolés. Et malgré ça, je suis quand même tombée dans cette dans cette dans ce parcours de transition. Donc en fait, ce que je peux dire, c'est que qu'est-ce qu'il y a de parallèle, c'est les associations et le travail des associations, et c'est en fait une équipe pluridisciplinaire de médecins, de gynécologues, de chirurgiens, d'endocrinologues, qui vont en fait partager cette croyance, parce qu'ils ne partagent pas des connaissances, ils partagent la croyance de militants, de ces associations militantes, et participent du coup à avoir une parole autoritaire et aussi censé être de confiance, qui fait que qui va mettre forcément en conflit le parent avec cette autorité et ses associations, et qui va faire une inversion, parce que moi je l'ai vécu aussi, parce que moi, même si j'ai fait une transition à l'âge de 24 ans, j'étais adulte, mais j'ai quand même eu une rupture familiale, parce que en fait, comme on a l'impression que on nous comprend pas parce qu'on ne vit pas la situation, on va se tourner vers les professionnels et dire, eux, ils me comprennent, eux, ils savent, eux, ils vont m'aider, toi, tu ne comprends pas. Et c'est là que, en fait, toute la remise en question possible n'est pas faite, quoi. Donc, voilà. Et la rupture est facilement mise, quoi.
Juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75-016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Anne-Laure, vous... Anne-Laure, oui, c'est bien ça.
C'est Marie-Laure, toujours.
C'est bien ce que je pensais. Marie-Laure, excusez-moi. Les communications sont rompues, ça, on l'a bien compris. Est-ce que vous avez tenté de maintenir le contact, et qu'est-ce qui a, selon vous, conduit à cette rupture, et comment vivez-vous cela en tant que mère?
Oui, j'ai tenté de maintenir le contact. C'était le cas jusqu'à qu'elle prenne toutes ses affaires. Par la suite, elle m'a complètement bloquée et bloqué toute sa famille sur son téléphone.
D'accord.
J'ai fait ce que j'ai pu. Donc maintenant, quand j'ai envie de lui envoyer un message, je passe par un mail. Et j'ai de ses nouvelles par personne interposée, donc je peux pas trop dire, parce que je préfère que cette personne reste dans l'ombre. les conséquences de tout ça, c'est l'embrasement de mon foyer, le triste départ de mon enfant, d'unifamilial, son refus de communication, évidemment, et de m'informer de ses décisions. Mm-hmm. Les conséquences pour moi, c'est une dépression, la tristesse, les pleurs, l'inquiétude, la peur de ce qui peut arriver à mon enfant. Et quant à elle, elle a rompu avec sa famille pour une idéologie. Et pour des gens qui l'ont pas élevée, qui la connaissent pas comme moi je peux la connaître, elle est tellement endoctrinée que finalement ils ont réussi à couper le lien familial et à la pousser dans un début de parcours médical, quoi. Donc c'est compliqué.
Et Marie-Laure, quel danger ou piège voulez-vous alerter les parents sur ce processus de transition, surtout quand il se fait sans accompagnement familial?
Alors, je dirais que lorsque votre enfant s'isole, change au niveau de son style, de son discours aussi, qu'il faut être attentive, lui parler, mais des fois ça suffit pas. Donc, il faut pas hésiter à mettre en place une thérapie psychologique avec votre enfant, mais prenez un premier contact d'abord vous avec ce psychologue pour savoir comment il se place par rapport à tout ça. Mmh. parce que ça aussi, c'est important. De là, il faut limiter l'accès au réseau, essayer de partager de plus en plus de moments avec lui ou elle, essayer de contrôler, de vérifier vraiment l'implication des établissements scolaires aussi vis-à-vis de ce mouvement. Faire attention aussi si votre enfant se cache ses bras, cache son corps, ça peut signifier aussi une automutilation. Et se scarifier, c'est clairement un mal-être et un rejet de soi. Donc là, ça devient, c'est encore une étape et ça fait partie aussi de tout ça bien souvent.
Voilà. Et le temps passe vite. Madeleine, quel conseil, excusez-moi, donneriez-vous à des parents comme Marie-Laure pour reprendre le dialogue ou alerter sur ces enjeux en quelques minutes? Parce que
Je vais juste rebondir très rapidement sur les scarifications. C'est aussi un élément mis en avant pour la propagande militante. Hein. Se scarifier, c'est montrer que tu vas mal, donc qu'il faut te valider, quoi. Donc, moi, le conseil que je donnerais aux parents, hein, aujourd'hui plus qu'auparavant, il est vraiment primordial que les parents soient acteurs ou actrices de la scolarité de leur enfant, hein, de leur adolescent, mais aussi du jeune adulte, hein, parce que aujourd'hui, cela s'étend désormais donc à chaque strate d'études, de la maternelle jusqu'à l'université, notamment grâce au programme EVARS pour la maternelle, la primaire, voilà, le collège, lycée, quoi. Alors, quand je dis être actif ou active, c'est se renseigner des différentes chartes, hein, comme dit Marie-Laure, hein, que l'établissement met en avant, mais aussi, entre parenthèses, d'être des parents vigilants et participants aux réunions d'établissement ou intégrant les groupes de travail ouverts aux parents, et en questionnant surtout et impérativement la ligne éducative dite inclusive et les personnes aussi désignées pour la mettre en œuvre. Donc, identifier autant que possible précocement si l'établissement de votre jeune ouvre ses portes aux associations militantes de toutes sortes et surtout celles sous couvert de féminisme qui n'en est pas. Le planning familial, par exemple, en tête. Vraiment, il faut vraiment insister là-dessus, quoi. Hein, et autrement, faut que les parents se regroupent. Fassent entendre leur voix, que ça soit au niveau de l'établissement, au niveau local, municipal, départemental. Et en ce moment, il y a aussi les élections municipales qui rentrent en compte, en ligne de mire. Donc, faut aussi que ces voix-là soient entendues, parce qu'en fait, les militants transgenristes avancent à grands pas et déroulent leur agenda politique. Et identitaire, parce que les parents sont tétanisés, vraiment subjugués, mais aussi isolés par les annonces possibles de leur enfant qui se dirait soudainement trans. Donc voilà. Donc, il faut surtout que les parents ne coupent pas le dialogue, même si l'enfant quitte le nid familial. Il faut vraiment que les parents, ça soit leur ligne directrice, toujours communiquer, même s'il n'y a pas de retour de l'enfant ou du jeune adulte, et de lui dire que, quoi qu'il en soit, quels que soient les médicaments ingérés ou la chirurgie choisie, les parents seront toujours là pour le soutenir et l'accueillir dans un parcours aussi de regrets et à nouveau de mal-être.
Elio, en une minute, si vous pouvez, quel message d'alerte adresseriez-vous aux jeunes tentés par une transition ou aux parents comme Marie-Laure pour éviter des parcours irréversibles?
Oui, en quelques mots, pour les parents, il faut aussi savoir qu'il y a des avocats, il faut s'entourer d'avocats, surtout notamment pour des mineurs, très important. On a maintenant des avocats qui font du très bon travail pour ça. Et puis le plus important aussi, c'est si vous êtes pris pour les parents, c'est de gagner du temps, surtout gagner du temps. Gagner du temps avant les opérations. Une dernière chose, pour les conséquences, je vous réponds juste vite fait. Je me suis rendu compte en fait, on aurait pu me mutiler encore, retirer toujours plus, que ça ne changerait jamais rien, en fait, que je serais jamais autre chose et que je n'ai pas un corps, mais je suis un corps qui est tout à fait différent.
Effectivement.
Et puis, pour les jeunes, eh ben, le seul conseil, c'est ne mutilez pas votre corps. Soyez fiers de votre corps. Soyez fiers d'être des hommes et des femmes différents, parce que vous ne serez jamais autre chose. Et condamné à l'hybridation par des médecins, ce n'est pas la solution, quoi.
Et pour terminer, Marie-Laure, quelles mesures préventives ou ressources, il nous reste 30 secondes, recommanderiez-vous pour éviter de telles ruptures ?
Alors, au niveau des mesures, je dirais qu'il faut beaucoup de courage pour ce combat et que des moments difficiles les attendent, que, comme disait Lio, il y a des associations comme SOS Éducation, La Petite Sirène, des collectifs de parents qui se mobilisent, des avocats, comme disait Lio également, des médecins aussi qui ne valident pas ce parcours. Il ne faut pas avoir peur, nous sommes pas des parents transphobes, attention, on est juste des parents qui protègent et aiment nos enfants, et comme dirait ma fille, pour toujours et à jamais.
Eh bien, écoutez, on va terminer sur cette phrase. Marie-Laure Madeleine Lio, ce sera le mot de la fin. Encore merci pour ce témoignage en compagnie de Madeleine Le Pollez du collectif L'Être Trans et Lio Gessler. Donc, on a bien compris qu'elle effectue une transition complète avant de faire machine arrière à 32 ans. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016. Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Encore merci à toutes les trois, mercredi prochain et bonne semaine.